Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Amen. On pourrait dire la prière, bref. Quand on s'est adressé à Dieu, qu'on a dit quelque chose, il faut le faire, ne tarde pas. On va aller dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 22. Actes des Apôtres, chapitre 22 et verset 12. Il est question de l'apôtre Paul qui rend témoignage. Il explique sa conversion, de quelle manière les choses se sont faites. Et il se souvient de ce premier jour où un homme est venu le trouver pour prier pour lui. Et voici ce qu'il dit, Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 12. « Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Amen. » Et puis dans l'Épître aux Hébreux, encore plus loin, chapitre 10 et verset 32, une exhortation adressée à des croyants. Hébreux, chapitre 10 et verset 32, jusqu'au verset 39, la fin de ce chapitre. Nous la lisons donc ensemble. Hébreux, chapitre 10, verset 32. « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Êtes-vous du genre pressé? Oui ou non? Pas entre les deux. Moi, je suis du genre un peu pressé. C'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, je veux tout de suite la mettre en place, en pratique, je veux toujours le faire tout de suite. Ça n'a pas que des avantages, hein, pour les autres surtout, parce que voilà, tout de suite, allez, il faut le faire. Et d'ailleurs, pour peu que ce soit un petit peu long, il faut toujours que je termine. Alors ce long, ça peut être très long. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu héréditaire. Quand je vois comment quelquefois notre fils nous casse les pieds parce qu'il veut faire tout de suite tout cela, après m'être disputé avec lui, je dis, mais je sais de qui il tient quand même. Alors, c'est un peu difficile, forcément. Il y a de très, très nombreuses années, on a vécu une expérience assez drôle, assez amusante. Nous étions jeunes, mariés, et un jeune étudiant venait en France pour quelque temps, et on nous a demandé si on pouvait l'héberger. Alors, nous, on a dit oui, et il est arrivé à la maison. Et quand vous avez un inconnu qui arrive à la maison, bon, il faut se régler un petit peu. Hein. Il est resté 3 semaines à la maison. Et donc, comme il y avait l'église, les réunions, etc., donc il venait avec nous, il était croyant lui aussi. Mais je me souviens d'une première fois. Il était assis dans le canapé, imaginez que c'est le canapé. La réunion était à 19h, 20h, je crois, ouais.
Et puis, on discutait, tout cela. Et d'un coup, moi, je me lève, parce qu'il était 7h15, quelque chose comme ça, et je dis, bon, on y va. Je me lève d'un coup et je dis, on y va. Et lui, il me regarde. Et puis, il se lève. Et puis, il s'en va se préparer. Ça a duré un quart d'heure, ce qui est bon. J'étais fou. Parce que quand j'ai dit, on y va, on y va. Et il m'a regardé aussi longtemps que je vous l'ai fait là. Ça fait long, hein. Là, je me suis dit, il n'a peut-être pas compris. Il faut parler plus lentement. Il n'était pas français, mais il parlait très, très bien français quand même. Je me suis dit, l'habitude, etc. Sauf que les fois d'après, je disais, on y va, parce que j'avais un quart d'heure d'avance. Je me suis dit, comme ça, au moins, on partira à l'heure. Certains ne sont pas trop pressés. Remarquez, c'est pas pour autant qu'ils ont tort. Il ne faut pas confondre d'ailleurs précipitation et... Voilà. Donc il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Le fait est que, quelquefois, c'est bien de ne pas remettre au lendemain certaines choses. Je vous encouragerai, tout au moins cet après-midi, à ne pas remettre au lendemain des décisions que vous pourriez prendre avec Dieu. Si tu as fait un vœu, ne tarde pas à l'accomplir. C'est ce qu'on a lu dans l'Ecclésiaste. Parce que Dieu n'aime pas les insensés. Quand il dit insensé, on pourrait comprendre celui qui va faire ou dire sans réfléchir, qui perd le sens, qui ne voit pas bien dans la bonne direction. Dieu n'aime pas ça. Il vaut mieux, à la limite, rien dire, plutôt que de dire et de ne pas faire. Vous êtes d'accord ? Si quelqu'un vous fait des promesses qu'il ne tient jamais, ça va vous agacer et vous finirez par lui dire « ne me dis rien, ne me dis rien ». On a connu là aussi, il y a de nombreuses années, une histoire qui, celle-ci, n'était pas très heureuse. On connaissait une famille et la maman élevait seule ses 3 enfants et le dernier était adolescent. Et il y avait eu un divorce quelques années auparavant. Et le plus jeune avait encore besoin quand même de relations concrètes avec son papa. Et le papa n'habitait pas dans la même ville, mais régulièrement, le papa disait à son fils, « Attends-moi, prépare-toi le samedi, le dimanche, je viens, je te récupère. » Et en fait, l'adolescent a attendu des dizaines de fois. Préparait son sac à 8h du matin, mais il attendait jusqu'à 10h, 11h, midi, et il ne venait pas. Et c'est arrivé une quantité de fois. C'est difficile, c'est dur, tout de même. Alors, il en avait pris son parti, bien évidemment, et il savait que quand son père lui disait « Je vais venir », il disait « Oui, oui », il savait qu'il ne viendrait pas. Bon, ce n'est pas génial comme situation. Alors, évidemment, dire et ne pas faire, ce n'est pas formidable, mais cet après-midi, je vais vous encourager à faire. Et sans confondre, comme on l'a dit, précipitation, vitesse, enfin, ne pas mesurer à quoi servirait cet engagement. Mais je vous dirai cet après-midi, pourquoi tardes-tu encore à t'engager avec Dieu ? Pourquoi tardes-tu encore à faire ce pas qui t'engagera dans une vie beaucoup plus sécurisée, qui vous engagera dans une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus facile ? D'ailleurs, à bien y réfléchir, pourquoi tarde-t-on le plus souvent ? Quelquefois, des regrets nous empêchent de prendre des décisions. Quelquefois, c'est la peur, c'est la crainte, c'est l'inconnu qui nous font mettre le pied sur le frein en disant « j'hésite, je ne suis pas bien sûr, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que j'ai raison ?» Donc on hésite et on tarde. Sauf que à trop tarder, la solution s'en va quelquefois, et à trop tarder, on passe à côté de quelques bénédictions. Vous avez vu ce texte que l'on a lu ensemble dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, quand Ananias rencontre l'apôtre Paul. Cet homme vient de vivre une expérience tout à fait incroyable, dans ce sens qu'il a été convaincu par Dieu qu'il faisait fausse route. Je vous remets un petit peu dans le contexte. C'est un homme qui a sa religion, il a sa croyance. Il est d'ailleurs très, très, très investi, pour ne pas dire extrémiste, fanatique. Mais il va jusqu'à persécuter ceux qu'il considère comme appartenant à une fausse religion. Et en l'occurrence, il est juif, pratiquant, extrémiste, donc il persécute les chrétiens, forcément. Et donc, il les poursuit dans les maisons, il les poursuit dans les villes où ils se réfugient. Mais quand il les attrape, il les maltraite, il les blesse, il les jette en prison. Il a même joint quelquefois son oui à la condamnation à mort de quelques-uns. C'est quelqu'un qui est violent, c'est quelqu'un qui est rempli de haine, mais c'est quelqu'un qui est convaincu d'être dans son bon droit, jusqu'au jour où Dieu l'arrête. J'aimerais vous dire que si jamais personne ne vous a arrêté, ne faites pas de fier. Parce que le jour où Dieu vous arrêtera, ça peut faire mal quand même. Et là, ça l'a arrêté net. Net, il était sur une route qui l'emmenait vers Damas. Et la Bible dit qu'à un moment donné, une lumière a resplendi autour de la troupe qui était avec lui. Il a été précipité de son cheval à terre. Il a entendu une voix. Il a concrètement entendu cette voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et quand il s'est étonné de dire « Mais qui me parle ?» « Qui es-tu, Seigneur ?» Il va être surpris d'entendre « Je suis Jésus que tu persécutes. »« Je suis Jésus que tu persécutes. » Quand il se relèvera de cette expérience, il est aveugle. Aveugle. Tous ceux qui étaient là, pour la plupart, ont eu peur, ont entendu un bruit, ont bien vu la lumière, mais personne n'est tombé aveugle, sauf lui. Un châtiment, certainement. En tous les cas, c'est peut-être une manière de mieux voir clair. Vous savez, quelquefois on pense voir bien clair et on a quand même des bouchons devant les yeux. On est plutôt aveugle, sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Lui, il pensait voir clair et d'un coup, il se rend compte qu'il est totalement aveugle. Alors, il va être conduit péniblement dans la ville de Damas, dans une certaine rue, chez un certain homme de qui il obtiendra le nom. Et quand il se trouve là, il attend, il va rester des jours et des jours à comprendre cette expérience. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Pourquoi j'en suis là ? Mais qu'est-ce qui m'est tombé dessus ? Alors il va prier, il va chercher la face de Dieu. Et au même instant, Dieu parlera à cet homme, Ananias, en lui disant « Tu vas aller à tel endroit, dans telle maison, et tu vas t'adresser à ce fameux Saul qui deviendra l'apôtre Paul, Saint Paul. » Et il va lui dire le texte qu'on a lu ensemble. En fait, on se rend compte que dès qu'Ananias rentre dans cette maison et qu'il lui dit « Recouvre la vue », donc il va être guéri de sa cécité, mais il va lui dire quelque chose d'important. Il va lui dire maintenant « Saul, que tardes-tu » On l'a lu ensemble. Hein? « Que tardes-tu » Évidemment, il ne risquait pas d'aller loin, étant aveugle. Il ne risquait pas de faire grand-chose ayant cet handicap. Mais maintenant qu'il est guéri, et maintenant qu'il sait que Dieu l'a choisi pour servir de témoin auprès de tous les hommes des choses qu'il a vues et entendues, la recommandation est très simple, mais très directe. « Lève-toi, sois baptisé. » Laver de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Là, il n'y avait plus à tergiverser. Il n'y avait plus à attendre. C'était maintenant qu'il fallait s'engager. C'était maintenant qu'il fallait prendre la décision. À tous, on l'a lu dans l'Épître aux Hébreux, ils avaient besoin d'encouragement. Certains avaient été malmenés, persécutés, maltraités, jetés en prison. On les avait spoliés, on avait vidé leur maison. Et ils attendaient la consolation, mais ils l'attendaient avec tellement d'espoir. Que l'auteur de l'Épître aux Hébreux leur dira « Ne vous inquiétez pas, ce Jésus que vous attendez vient bientôt. Bientôt il sera là. Encore un peu de temps, un peu de temps. Celui qui vient ne tardera plus. Il sera là. » Voyez, quand on vous annonce la paix et la joie que Dieu donne, on ne vous annonce pas un mirage. On ne vous annonce pas quelque chose qui est du vent, qui n'existe pas. On vous annonce des réalités. Vous annonce des choses concrètes, mais on vous dit, ce sont des choses qui vont s'accomplir. Et j'en profite pour vous dire cet après-midi qu'elles ne tarderont pas à s'accomplir dans votre vie si tout simplement vous criez à lui et vous invoquez son nom et vous lui demandez de l'aide. Alors, la délivrance vient, c'est une certitude, la délivrance vient. Maintenant, la solution, c'est de s'en remettre à Dieu. C'est évidemment la meilleure solution parce que Dieu est hors du temps. Et j'ai envie de dire qu'il est maître de tous les événements. Hors du temps, maître de tous les événements. Ce qui nous empêcherait de choisir quelquefois, ce sont les regrets. Regrets d'une vie de mauvais choix, d'une vie passée dont on n'est pas fier, des regrets. Non, je ne regrette rien. Je ne suis pas bien sûr que c'était bien vrai tout ça, mais on peut le chanter. Hein. On peut dire non, non. Si c'était à refaire, je referais pareil. Je me souviens de quelqu'un, la maman d'un ami, qui avait du tempérament, du caractère. caractère un petit peu marginal, assez particulier. Et un jour, quand on était en voiture, elle nous avait emmenés promener, et on revenait d'un week-end comme cela, et on était tout jeune avec son fils, on était ados, on avait presque 14 ans, quelque chose comme ça. Elle nous dit tout de go, dans la vie, il vaut mieux avoir sale caractère que pas de caractère du tout. Ouais. Donc elle avait choisi de ne pas avoir pas de caractère du tout. Donc elle avait du caractère. Hein. Bon, c'est un choix. Le fait est que cette personne aurait pu dire, moi, si c'était à refaire, je referais la même chose. Mais je ne vous dis pas, sur la route, le nombre de pots cassés, le nombre de dégâts, etc. Donc ce n'est pas toujours très avantageux. Quand on veut agir comme cela, je ne parle pas d'elle, mais d'une manière générale, quand on vit comme un volcan, comme on vit comme une tempête, une tornade, il y a des dégâts, il y a des dégâts forcément. Alors on pourrait regretter certaines choses. Il y a un homme de la Bible qui a failli mourir à cause de regrets. Il s'en est fallu d'un cheveu, in extremis. Il a été, sauvé à la dernière seconde. On trouve son histoire dans les premiers temps bibliques. Et cet homme, vous en avez certainement entendu parler, il s'appelle Lot. Lot est le neveu d'Abraham, et Lot va vivre dans des villes qui sont restées célèbres, Sodome et Gomorre. On a entendu parler de ces villes-là. On a certainement, avez-vous entendu parler, en tous les cas on sait, que ces villes ont été détruites d'une façon assez spectaculaire. Certaines découvertes archéologiques assez récentes du XXe siècle ont montré que dans ces endroits-là, et on a situé ces villes à ces endroits-là, il y avait quelque chose dans les roches de très particulier qui laissait penser à une espèce de combustion, quelque chose d'assez violent. Aujourd'hui, on dirait une bombe nucléaire qui rase tout. Assez surprenant, hein ? Assez surprenant. Mais quand on connaît l'histoire, il n'y a rien de surprenant, puisque le jugement est tombé du ciel sur ces villes à cause de leur faute, à cause de leur endurcissement et de leur mauvaise attitude. La Bible dit que le feu du ciel est tombé, a consumé ces villes, et on retrouve trace de ces choses-là. Mais Lot, j'en reviens à cet homme-là, Lot est un homme qui va se retrouver à un moment donné totalement coincé. Il va se retrouver tiraillé entre deux décisions et il va être dans un dilemme terrible. Il habite cette ville-là, il a choisi quelque temps plus tôt de quitter les montagnes et de quitter son oncle sur les propres recommandations de l'oncle, il faut qu'on se sépare, mais il avait le pays tout entier devant lui à 360 degrés, il pouvait aller où il voulait. Et il a choisi ce qui lui semblait le plus propice pour lui, c'est-à-dire une plaine, il s'en est allé vers la mer Morte, et il a habité dans ces plaines-là, et il a côtoyé ces gens de Sodome et Gomorre. Rapidement, il comprendra que ces gens sont bizarres, que ces gens vivent mal, que la moralité, ça n'a pas cours dans ces villes-là, que la justice, ça ne représente pas grand-chose, et que tout ce qui est saint, S-A-I-N-T, alors là, on ne connaît pas, hein. Lui, c'est quelqu'un qui vient d'une autre culture, c'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui a des principes. Alors évidemment, il est tourmenté par ces choses-là. La Bible dira même qu'il tourmentait son âme jour et nuit à cause de ce qu'il voyait et entendait. Vous me direz, peut-être le pensez-vous, mais pourquoi il est resté ? Pourquoi il est resté ? Vous resteriez, vous, dans un endroit où tout va de travers, où ça ne marche pas, où les gens sont méchants, où vous entendez des choses horribles constamment, vous voyez des choses épouvantables, vous resteriez là, vous ? Non, certainement pas. Sauf qu'on ne sait pas trop si tout est apparu clair à ses yeux dans un premier temps, s'il n'a pas fallu un peu de temps avant de comprendre tout ça, ou s'il s'est laissé endormir, on ne sait pas trop. Le fait est qu'il est coincé, parce qu'il avait des enfants. Et plusieurs de ses enfants s'étaient mariés avec les gens du coin. Donc maintenant, quand par l'intermédiaire d'hommes qui entreront dans cette ville, Dieu lui dit, il faut que tu partes, je vais détruire la ville. Alors il passe le mot à toute sa famille, mais il va être coincé. Parce que pour ses gendres, la Bible dit, il parut plaisanter pour ses gendres. Destruction, mais qu'est-ce que tu nous dis ? La ville va être détruite et Dieu, mais quel Dieu ? Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent un peu comme ça. Hein. Oui, beaucoup. Mais quel Dieu? Mais de quoi vous parlez? Du ciel, de l'enfer? Vous y croyez encore? Croyez encore à ces fables-là? Eh, réveillez-vous, on est au 21e siècle quand même. Hein? Ça, c'est bon pour les livres de contes, les comptines d'enfants. Non, non, il faut se réveiller. Sauf que lui sait que c'est vrai. Et les autres croient que c'est faux. Difficile de convaincre quelqu'un qui n'y croit pas. Difficile. Alors il va être coincé. Soit il part et il risque de perdre plusieurs de ses enfants, parce que ce n'est pas dit que les filles abandonnent leur mari, etc. Soit il reste afin de les convaincre du danger, mais là, c'est lui qui court un risque. Et la Bible dit ceci dans le livre de la Genèse, je vous lis juste, ces quelques mots, vous allez comprendre. Dès l'aube du jour, on y est depuis la veille au soir, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles, celles qui n'étaient pas mariées, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans les ruines de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville, avec une seule recommandation, pars, cours, ne te retourne pas, fuis maintenant. L'histoire est terrible, parce qu'il va s'en aller finalement. Vous avez compris qu'on l'a pris par la manche, hein. Ça ne s'est pas fait facilement. Hein. Et il tardait, rempli de regrets certainement, en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait de venir m'installer là? Est-ce que mes filles vont ouvrir les yeux? Est-ce que mes gendres vont comprendre? Quel avenir pour eux ?» Évidemment, il est mangé, certains diraient de remords, mais de regrets en tous les cas. Il a du mal à bouger. Mais si tu continues à rester dans cette position-là, tu vas mourir. Ton épouse mourra, tes deux filles qui n'ont pas été encore mariées, qui ont la vie devant elles, elles vont mourir également. Il faut partir. Que c'est dur de faire ces choix-là, n'est-ce pas? Que c'est dur de choisir quand on est coincé entre le marteau et l'enclume. Hein. Ou alors vous êtes dans un étau et chaque jour, c'est un tour de vis. Hein. On se dit, mais ce n'est pas possible. Il n'y a plus de latitude, il n'y a plus de moyen de choisir. C'est difficile. Lot va apprendre une chose, c'est que le salut, c'est une histoire personnelle. Heureusement et malheureusement pour les autres. Hein. Une histoire personnelle. Jésus dira avant de monter au ciel, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera perdu, condamné. Celui, on parle à la personne, on parle à un et une à la fois. Et le salut, c'est une histoire personnelle. Soit vous quittez la ville de Sodome et Gomorre, soit vous y restez. Mais il se peut que tout le monde ne vous croit pas et que tout le monde ne vous suit pas. D'ailleurs, ils ne vont même pas arriver tous les quatre en sécurité dans la montagne parce que sur la route, alors qu'on comprend que les choses se gâtent, l'épouse de Lot va se retourner, regarder encore la ville et elle va être pétrifiée. C'était une des recommandations, ne vous retournez pas. Quand on s'engage avec Dieu, pas la peine de se retourner en disant « qu'est-ce que je perds ?» Il vaut mieux regarder devant et regarder tout ce que vous allez gagner. Hein. Parce qu'avec Dieu, on gagne beaucoup. On gagne la paix, on gagne la joie, on gagne la sécurité. On gagne un avenir et on gagne le ciel. Enfin, on gagne, façon de parler, hein. C'est cadeau, c'est offert. Et voilà comment on peut regretter. Évidemment, beaucoup de choses, mais regretter ne donne pas toujours la solution. Quelquefois, d'ailleurs, les regrets conduisent à se culpabiliser, et ça, c'est encore plus terrible. Regretter ne vous fera pas avancer, parce que ce sont des sentiments qui vous fixeront dans une espèce de mort intérieure figée, vous allez rester inerte. Je vous encourage à ne pas regretter, je vous encouragerai plutôt à vous repentir, ce sera autre chose. On va le voir dans un moment, mais à ne pas simplement regretter, ça ne suffit pas, mais il faut aller de l'avant. Et regardez devant vous, Dieu vous tend la main, il vous interpelle. Et il vous dit, que tardes-tu, ne tarde plus dans cette situation-là, il faut que ta vie change, il faut que votre vie change, et Dieu se propose à vous pour cela cet après-midi. Amen. Et il y a une autre histoire un petit peu plus loin, alors celle-là, c'est un petit peu différent, c'est à partir du chapitre 37 de la Genèse, jusqu'au chapitre 50 d'ailleurs, qu'on trouve son histoire. C'est l'histoire d'un immense, entre autres, c'est l'histoire à tiroir en fait. Chacun aura son histoire, le papa aura son histoire, les enfants auront leurs histoires, et l'un d'entre eux aura une sacrée histoire. C'est, pourrait-on dire, l'histoire d'un immense secret de famille que l'on a gardé, secret évidemment, puisque c'est un secret de famille, pendant 20 ans. 20 ans. Aujourd'hui, la parole est libérée. Hein. Beaucoup écrivent des livres sur leur enfance, sur leur histoire, etc. Ça fait drôle, hein, quelquefois, d'entendre certains récits. Mais d'autres vous diront, j'ai besoin de parler. Il faut que je le dise. Depuis que je l'ai dit, d'ailleurs, je me sens mieux. Je ne suis pas sûr qu'une fois que c'est dit, tout le monde se sente mieux. Parce que forcément, ça éclabousse. Mais au moins, eux, ils se sentent libérés. On les encouragera, forcément. Ne pas vivre sous une double peine. Tu as subi et tu dois te taire. Évidemment, il faut que la parole soit libérée. Sauf que dans ce cas précis, on a du mal à libérer la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça fait 20 ans que l'on cache un secret à... que 10 enfants cachent un secret à leur père. C'est une famille avec 12 enfants, 12 garçons. Il y en a eu d'autres, des filles, mais il y a 12 garçons. Et il nous est dit que parmi tout cela, il y en a un qui semble un peu plus privilégié, aimé. Bon, c'est pratiquement le plus jeune, donc ça peut peut-être se comprendre. Le papa qui commence à être âgé a une préférence, etc. Mais il va susciter la jalousie des autres. Alors c'est une fratrie multicomposée dès le départ d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de demi-frères. Il y avait quatre mamans dans le lot, donc bon, les rapports ne sont pas toujours très simples. Mais le fait est que cet homme, ce garçon, ce jeune homme de 17 ans qui s'appelle Joseph, va être, écoutez bien, vendu par ses frères uniquement par jalousie. Il viendra leur rendre visite alors qu'ils sont en train de faire paître les troupeaux. Et le papa est très loin, et là, la haine prend le dessus sur sentiments nobles, et ils vont le jeter dans une citerne, ils ne vont même pas écouter l'agonie de son cœur, ses cris, etc. Qu'importe, une caravane passe par là, tiens, formidable, on va faire du commerce, et ils le vendent. Parce qu'à l'époque, on vendait, les gens étaient vendus, aujourd'hui, malheureusement, ça existe encore en quelques endroits. Il va être vendu, et puis c'est difficile de revenir sans. Donc on va simuler sa mort. On avait pris son beau vêtement. On va sacrifier, tuer un animal et on va tremper la robe dans le sang. Et quand on rentre à la maison, on va dire à son père, les enfants vont dire à leur père, ils ont tous le même père, tiens, on a trouvé ça, c'est pas Joseph? Ça te rappelle rien? Vous pensez bien que oui, ça lui rappelle quelque chose. Donc le père va pleurer un fils mort, tué par une bête sauvage, et la vie va continuer. C'est formidable, hein? Et la vie va continuer. Voilà, pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il n'existe plus, il est mort. Hein? Bon, il est parti en direction de l'Égypte, donc il est bien loin maintenant. La Bible dit une chose, celui qui cache ses fautes ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est important ça aussi, et les délaisse, obtient miséricorde. Comment vous voulez sortir d'un tel secret? C'est pas évident qu'il y en ait un des 10 qui se disent, moi j'en ai marre, je veux plus vivre avec ça sur mon cœur, je vais aller trouver le père. Papa, oui, j'ai quelque chose à t'annoncer. Oui, t'es bien assis, accroche-toi. En fait, Joseph, il est pas mort. Comment il est pas mort? Non, en fait, je sais pas. Mais en fait, vous imaginez? Il y en a pas un qui a le courage de le faire. Je ne dirais pas ça peut se comprendre parce qu'on ne peut même pas comprendre ce qu'ils ont fait. Le fait est qu'il n'y en a pas un qui le fait. Alors on va rester comme ça. À votre avis, il vaut mieux tuer le mystère ou il vaut mieux crever l'abcès? C'est peut-être mieux. Hein? D'ailleurs, la parole libérée aujourd'hui, c'est un peu ça. Hein? Les gens ont besoin de parler parce qu'on crève l'abcès. Et puis on veut être libéré. Je ne sais pas s'ils ont bien vécu ces moments-là. J'ai du mal à croire qu'ils ont bien vécu, mais j'aimerais vous dire qu'on peut cacher aux hommes beaucoup de choses. Mais à Dieu, c'est impossible. Tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes né, ça fait un peu froid dans le dos quand même. Tout ce que vous avez fait, Dieu l'a vu. Même quand vous aviez 6 ans, que vous avez piqué un bonbon. Ça nous fait sourire. Mais à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on fait pire. Mais Dieu voit tout. Dieu voit tout. Dieu sait tout. On peut, me semble-t-il, mourir dans ses mensonges. Et quelquefois, on peut mourir de ses mensonges. Ça peut vous emmener à la mort. D'avoir menti comme ça, vous êtes mangé de l'intérieur. Les gens qui ont souffert, qui sont morts certainement prématurément à cause de douleurs ainsi. Alors parce que Dieu vous aime, ben il va vous provoquer. Et il les a provoqués ceux-là. Au bout d'un moment, alors que la vie continuait tant bien que mal, une famine est tombée sur toute la région. Une famine telle que on a épuisé les réserves, et comme on avait épuisé les réserves, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait ? Sauf que, grâce à Dieu, en Égypte, on avait pris les devants, et voilà qu'en Égypte, on apprend qu'il y a des réserves à profusion. Il faut dire que cette année avant, c'est cette année de famine, cette année auparavant, il y avait eu de l'abondance, mais une telle abondance qu'on avait crevé les plafonds de toutes les réserves. Et en Égypte, quelqu'un avait eu cette intelligence inspirée par Dieu de faire des réserves. Alors il avait été nommé gouverneur sur le pays tout entier et il avait ordonné tout ça, quoi. Il avait tout mis en place. Formidable. Et quand en Israël, un peu plus loin, en Palestine, on apprend qu'il y a des réserves là-bas, Jacob, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit à ses fils, descendez en Égypte et allez nous chercher de quoi survivre. Alors ils vont partir, les 10. Sauf un, le plus jeune, le Benjamin, qui va rester avec le papa. Ils vont descendre. Et donc, quand ils se retrouvent en Égypte, ils vont être confrontés à ce fameux gouverneur. Chose hallucinante, ahurissante. Le gouverneur, c'est leur frère, qu'ils avaient vendu 20 ans auparavant. Sauf qu'eux, ils sont à 1000 lieues. D'imaginer qu'ils vont retrouver quelqu'un, un copain d'avant, ça ne marchait pas. Hein. Ils ne le reconnaissent pas, absolument pas, sauf que lui, il les reconnaît. Vous imaginez, habillé à l'égyptienne, parlant égyptien, utilisant un traducteur d'ailleurs. Sauf qu'il les reconnaît tout de suite. Et là, il s'est dit, tiens, je tiens... ça fait un peu méchant, revanche. Hein. Ma vengeance, ma revanche, c'est souvent ça. Hein. C'est ça qu'on dit. Hein. Ah, je tiens ma revanche. C'est un peu ça quand même. Sauf qu'on ne sait pas trop s'il est sympa, s'il n'est pas sympa, si c'est comment il va se comporter. Et là, il va y avoir une succession de manigances qui n'étaient pas spécialement méchantes, mais très déstabilisantes. Et il nous est dit que, alors qu'il se présente, voilà que Joseph leur dit, non, moi je ne crois pas ce que vous me dites, votre histoire, je ne la crois pas. Des bergers qui arrivent, je crois plutôt que vous êtes des espions. Alors ils vont dire, mais non, tu peux nous croire, on dit toujours la vérité. On est gentils. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Hein. Ils peuvent mentir à tout le monde, mais pas à lui. Hein. Non, c'est... non, je ne vous crois pas, en prison, il va les jeter en prison. Et là, un lent processus est en train de se passer au-dedans d'eux. Je vais vous lire quelques versets comme cela. Au chapitre 42, il est dit ceci, ils se dirent l'un à l'autre, étant en prison, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère. » Et là, ils se souviennent, hein, 20 ans, comme par hasard, ça revient comme si c'était hier. Hein. « Car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. » Un peu plus loin, ça c'est très intéressant, au chapitre 44, devant une autre situation, parce que Joseph a créé une autre circonstance, ils vont être un petit peu défaits et ils vont, la Bible dit, déchirer leurs vêtements et ils vont essayer de comprendre ce qui se passe et ils vont dire, que dirons-nous à mon Seigneur ? Il s'adresse à Joseph. Comment parlerons-nous ? Comment nous justifierons-nous ? C'est la première fois, apparemment, qu'il sort de leur bouche des paroles sensées. Comment allons-nous nous justifier ? Qu'est-ce que nous allons te dire ? Qu'est-ce que nous pouvons répondre à ce que tu nous dis, à ce que tu nous dis ? Dieu a trouvé l'iniquité, la méchanceté de tes serviteurs. Ils sont sur le chemin de la repentance, en tous les cas de l'humiliation. Ils sont humiliés par ce qui arrive. Et là, ils comprennent que les choses tournent mal. Ils ont mis du temps à comprendre parce que, après qu'ils aient réalisé qu'ils avaient mal agi, c'est quand même impressionnant. Quand ils vont finalement être relâchés, ils vont s'en aller avec les réserves qu'ils ont achetées. À un moment donné, ils s'arrêtent à une aire de repos et puis ils sortent les sacs. Et quand l'un d'entre eux va ouvrir son sac pour donner du fourrage à l'âne, il va trouver l'argent qu'il avait donné pour payer les sacs. Et là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et écoutez bien, il va dire, mais qu'est-ce que Dieu nous a fait? Eh, dites, c'est pas un peu le monde à l'envers, là? Maintenant, c'est la faute de Dieu, tout ce qui leur arrive. Ne dites pas que c'est de la faute de Dieu, tout ce qui vous arrive, parce que c'est pas juste. Réfléchissez un moment, et vous comprendrez que c'est peut-être aussi un peu de votre faute. Ce n'est peut-être pas que de votre faute, j'en conviens. Quelquefois, on n'est pas épargné. Mais ce n'est pas de la faute de Dieu en tous les cas. Qu'est-ce que Dieu nous a fait? À moins qu'ils aient bien compris que Dieu était en train de les mener là où ils ne voulaient pas aller. À un moment donné, il faudra bien dire ce qu'on a fait. Il faudra bien l'avouer. Alors le temps va passer. Ils rentrent à la maison et ils expliquent plus ou moins comment les choses se sont passées. Sauf qu'ils reviennent à un de moins. Parce que le fameux Joseph les avait interrogés, vous êtes qui, vous arrivez d'où, vous avez des parents, etc. Et eux, ils vont tout dire. Oui, oui, nous étions 12. Malheureusement, un n'est plus là. Malheureusement, il y en a un qui est mort. On est en train de parler de lui, hein. Il y en a un qui est mort. Et il reste le plus jeune. Et le papa l'aime parce qu'ils étaient deux frères. Donc il le garde chèrement près de lui. Et au moment de repartir, il va en garder un prisonnier, Siméon. Pauvre Siméon, pourquoi t'es venu? Ouais. Et il va dire, écoutez, je libérerai votre frère quand vous me ramènerez le plus jeune parce que je ne crois pas encore à votre histoire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment on va s'en sortir? Vous savez que quand on commence à mentir, tricher, etc., c'est un cercle sans fin. Ne croyez pas que vous allez vous en tirer à bon compte, hein. Ça se retournera tôt ou tard contre vous. D'ailleurs, le diable s'en sert, et une fois qu'il se sera bien servi de vous, il vous écrasera, sera terminé. Il n'a aucune considération pour vous, absolument aucune. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on va s'en sortir? Il rentre à la maison, et le papa compte, 1, 2, 3, 4, et il n'en manque pas un, hein. Il n'en manque pas. Il faut toujours compter quand vous faites une excursion, tout ça, de peur d'en perdre un. Comptez bien. Il n'en manque pas, là. Ben, manifestement, il en manque un, oui. Et ils vont raconter l'histoire. Et le père de dire, mais pourquoi vous leur avez dit qu'il y en avait un ici? Pourquoi vous leur avez dit qu'il restait encore un fils ici? Pouviez pas vous taire? Et eux, de se justifier, ben, on a parlé. On ne savait pas où ils voulaient en venir. Comment vous l'auriez imaginé? Vous voyez que Joseph, 20 ans plus tôt, il avait imaginé qu'en allant apporter le pique-nique à ses frères, ils allaient le vendre. C'est inimaginable. C'est même pas pensable, quelque chose comme ça. Alors le temps va passer, et on a mangé toutes les réserves, évidemment. Et voilà ce qui va se passer, au chapitre 43. Il nous est dit que le papa va s'adresser aux enfants en disant, « Bon, il serait temps de retourner là-bas pour aller chercher encore à manger. Hein. » Et Judas va dire au papa, « Laisse venir l'enfant avec moi. » afin que nous nous levions et que nous partions. Et nous vivrons et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui, et tu le redemanderas de ma main, si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car, écoutez bien, si nous n'eussions pas tardé, nous serions maintenant deux fois de retour. Parce que déjà un petit peu avant, on avait dit, il faut y retourner. Et le père avait dit, jamais de la vie, hein. Je ne vous laisse pas le petit, il ne partira pas avec vous. Et eux de dire, mais si on n'y va pas, il ne nous recevra pas, il ne veut pas nous voir, on n'obtiendra rien, on est obligé de l'emmener. Obligé de confesser son péché, hein. Obligé. On est obligé de l'emmener, on ne peut plus faire comme ça. Non, il n'ira pas, alors on a attendu et on a tardé. Quand on tarde à avouer ses transgressions, on s'enfonce. De plus en plus, c'est de pire en pire. Et puis là, le père a cédé, et le père a dit, de toute façon, on va mourir. Si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé, mais il dira quand même quelque chose de bien. Il dira que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme. En fait, la conclusion, c'est ça qui est important, c'est qu'ils y ont été. Et cette fois-ci, Joseph, ben, il avait essayé de se contenir, mais il avait eu franchement du mal. Et là, il va leur avouer la vérité. Il va leur dire, je suis Joseph. Alors là, je ne vous dis pas, hein. Faut pas être cardiaque. Hein. Je suis Joseph. Et Joseph qui? Ben Joseph, fils de Jacob. Joseph, Jacob le nôtre. Oui, oui, fils de Jacob, votre frère. Essayez de vous représenter la scène. Il les a pris un après l'autre. Il les a embrassés, il a pleuré avec eux. Vous aviez pensé me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Vous aviez médité le mal contre moi. Dieu l'a transformé en bien. Vous aviez médité de faire le mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Alors le résultat, c'est qu'on a libéré Siméon. Il a pu mettre à table tous ses frères et leur donner à manger, à manger. Ils n'en revenaient pas, ils n'en revenaient pas. Même les Égyptiens étaient surpris. Et le résultat, c'est qu'on a tout ramené à la maison. Et quand on a dit au papa, Joseph vit, là, fallait avouer le péché. Hein. Il a fallu l'avouer. Hein. Eh bien, vous savez quoi ? Dieu a permis qu'ils se réconcilient tous. Il n'y a que Dieu qui fait ça. Il n'y a que Dieu qui fait ça. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie. J'aimerais que vous soyez en paix avec tous vos proches. Sauf que j'en doute. Je ne connais pas votre vie pour certains. Et les détails de tous, je ne les connais absolument pas. Mais cette situation-là nous ramène à ce que quelqu'un vit aujourd'hui, c'est sûr. Tant que je n'ai pas avoué mon péché, je gémissais au-dedans de moi. Ma vigueur n'était que sécheresse. C'est le roi David qui dira cela après avoir péché. Mais quand j'ai avoué mes transgressions à l'Éternel, il a effacé même la peine de mon péché, même la peine de mes offenses. En fait, et c'est là ma conclusion, dans Jérémie chapitre 51, il est dit ceci, juste un verset. Vous avez, vous qui avez échappé au glaive, partez et ne tardez pas. Vous avez échappé à la mort puisque vous êtes là. Vous n'êtes pas encore sorti des griffes du diable. Donc il vous conduira à la mort. Eh bien moi je vous dis que cet après-midi, vous pouvez échapper à ses griffes. Et vous pouvez échapper à son glaive. Alors si vous échappez à son glaive, levez-vous et ne tardez pas. C'est maintenant qu'il faut s'engager avec Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Ce ne sont pas les regrets qui nous font aller de l'avant, encore moins le péché qui nous font avancer. Il ne s'agit pas d'être des gens pressés, mais il s'agit d'être un peu plus ordonné dans son cœur et dans sa vie et dans son âme. Vous ne voulez pas que votre vie s'arrange ? Vous ne voulez pas que ce soit plus cool, plus facile, moins compliqué ? Vous ne voulez pas vous endormir avec cette tristesse en disant « Pouh, comment réparer ?» parce que c'est irréparable. Donnez votre vie à Dieu. Donnez-lui dans l'état où elle se trouve. Et Dieu changera le mal en bien. Et Dieu reconstruira ce qui a été détruit, parce que c'est là sa capacité. Alors que Jésus va être livré, c'est les dernières heures qu'il passe avec ses disciples. Il est dans le fameux jardin de Gethsémané. Il a demandé à ses disciples de prier, de se tenir en éveil et de prier. C'est un moment particulier. Et puis par trois fois, il revient vers eux et ils dorment. Ils dorment. Et la dernière fois, il va leur dire ceci, « Levez-vous maintenant, réveillez-vous et levez-vous maintenant. » À un moment donné, il faut choisir. Je vous encouragerai à choisir cet après-midi de faire la paix avec Dieu. Vous avez la possibilité de faire la paix avec Dieu. Ne mettez aucune considération entre vous et Dieu, il n'y en a pas besoin. Aucune d'ailleurs ne serait valable. Regardez votre vie comme dans un miroir et considérez que vous avez besoin de grâce, besoin de liberté, besoin de changement, et seul Dieu peut vous accorder cela. Alors, que tardes-tu à t'engager ? Ne tardez plus. Prenez la décision, faites le pas de foi et engagez-vous cet après-midi. Amen. On peut prier pendant quelques instants ? Seigneur, nous venons devant toi, nous réclamons ta grâce. Nous venons devant toi parce que nous réalisons que tu es merveilleux. Et ces exemples de Lot, des frères de Joseph, sont là pour nous rappeler qu'on est souvent conduit dans des très mauvais choix, on est souvent conduit dans de très mauvaises routes à cause de mauvaises impressions. On a cru, on a pensé, on s'est laissé aller et on a été avalé par la colère, la rancune, l'envie, le désir de posséder ou que sais-je encore, la peur de perdre. Et tout cela nous conduit vers la mort, une mort certaine. Si nous ne faisons pas la paix avec toi, nous sommes condamnés pour l'éternité. Je te demande d'étendre ta main et je te demande de bénir chacun rassemblé dans ce lieu. Je prie pour la personne qui n'a pas fait le choix, qui n'a pas pris la décision de s'engager avec toi jusqu'à ce jour. J'aurais voulu lui montrer au travers de ces quelques mots que sans toi, Elle passera et elle vivra d'échec en échec, et certainement que les échecs risquent d'être de plus en plus cuisants, de plus en plus durs. Or, je crois que tu veux lui donner la vie et balayer le passé pour donner un avenir et de l'espérance. Je te demande de bénir cette personne-là. Je te demande de toucher son cœur, de lui révéler l'œuvre que tu as accomplie, Jésus, en donnant ta vie à la croix. Nous l'avons chanté, tout a été tellement bien expliqué au travers des chants. Tu as donné ta vie pour notre salut. Alors que personne ne doute et ne tarde à s'engager avec toi, que personne ne doute de ton amour. C'est bien toi qui provoques des réunions comme celle-ci, c'est toi qui provoques des rendez-vous que l'on repousse constamment. Se regarder face à face, se regarder dans un miroir, baisser les yeux et considérer que l'on est fautif. Merci d'humilier, merci de jeter dans l'humiliation, mais par humilité de relever ces bien-aimés, de leur permettre de goûter à ta grâce. Tu es le Dieu de la liberté, tu es le Dieu qui sauve. Étends ta main et apporte du réconfort et ta grâce dans le précieux nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. On va